au synode, il se passe à Rome, ben, les différentes communications qu'il y a eu pendant cette semaine sont très très variées, si bien je pense qu'il faut attendre un petit peu après pour voir comment les synthétiser. Alors, je voudrais aujourd'hui que nous tâchions de voir un peu, à la lumière un peu de toutes nos ce que nous avons déjà fait au plan théologique, un petit peu comment les grandes lignes, un petit peu d'une théologie de l'Église, et puisque nous sommes dans le mois du rosaire, les liens très forts avec Marie et avec le rosaire. Je vous rappelle ce que nous avons vu dans les deux cours précédents, à propos du synode. Vous voyez, le pape a souligné avec soin que ce synode avait des liens très profonds avec les deux qui avaient précédé. Vous voyez, d'abord, le pape avait voulu réunir les évêques pour tâcher de prendre mieux conscience des exigences de l'évangélisation à notre époque. Bon. Et puis ensuite, vous voyez les exigences de la catéchèse. Et la conclusion du pape, et en même temps la manière dont il annonçait ce synode de la famille, il montrait que la famille était à la fois objet et sujet de révélation, et dans le même sens, intéresser la catéchèse. Vous voyez, objet et sujet, vous voyez dans quel sens le pape le prend. Hein, voyez, c'est qui montre que dans la révélation, il y a toute une conception de la famille. Mais qu'est-ce qui est tout à fait particulier dans l'évangélisation? C'est que notre Seigneur nous apporte une bonne nouvelle, non pas à la manière d'un savant ou d'un philosophe, qui vient apporter d'abord un enseignement pour l'intelligence. Mais Jésus vient d'abord, avant tout, comme un sauveur, qui vient nous apprendre comment nous sauver, et sauver tout notre être, âme et corps. Vous voyez ? Donc, l'évangélisation, c'est pas avant tout un aspect, je dirais, pratique. Au fond, avant un aspect théorique. Vous voyez, au fond, la première éducation chrétienne nous donne, c'est nous apprendre comment prier. Vous voyez, et alors, si nous prenons bien le sens de la prière, et ça se rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure dans le premier cours, on prend bien le sens de la prière, et qu'au fond, Jésus est venu avant tout nous apprendre comment prier, mais d'une prière du cœur qui est tout inspirée par l'Esprit Saint et qui a enveloppé toute notre vie. Et dans le sens où l'auteur que je vous citais tout à l'heure montrait que l'élément religieux était le seul qui pouvait tout intégrer dans nos vies, et que cet élément religieux, nous le vivions dans une liturgie, mais la liturgie dans le sens très profond des anciens. Vous voyez, c'est-à-dire dans un rythme donné à notre vie, mais tout sous l'inspiration religieuse. Vous voyez, dans une perspective qui nous faisait vivre, qui nous faisait contempler l'univers, mais en Dieu, à la lumière de Dieu, et non pas d'un Dieu qui nous apparaît d'abord comme un juge, donc un Dieu qui nous apporte une morale, non pas non plus comme un Dieu qui apparaît d'abord comme un pédagogue qui veut nous enseigner quelque chose, mais avant tout comme un Père, et comme l'Esprit Saint, comme le bien-aimé, l'ami, vous voyez, qui veut communier avec nous en nous apprenant une nouvelle prière, une prière du cœur, une prière qui nous permet de communier Une prière qui établit l'unité entre nous et notre Dieu, qui a été toujours l'aspiration de toute mystique, et cette religion de Jésus est avant tout une religion mystique, et qui par là même nous permet de communier avec l'univers et de communier avec les autres. Vous voyez, tout l'aspect du corps mystique, n'est-ce pas ? Bon, alors, dans cette religion, bien sûr, l'évangélisation joue un rôle très important. Mais cette évangélisation, elle se fait avant tout en apprenant aux gens à prier. Et vous voyez, c'est pour ça que dans le synode qui a été sur l'évangélisation, vous voyez, le pape a tenu très fort à montrer comment il ne fallait surtout pas séparer les sacrements de l'évangélisation. Que l'évangélisation, au fond, trouve son achèvement dans les sacrements. Et on peut dire en même temps son commencement. Parce que le but de l'évangélisation, c'est d'abord de nous conduire à être baptisés. Allez, enseignez, baptisez-les. Et c'est quand nous sommes baptisés que nous pouvons entrer dans le secret, au fond, de cette connaissance. Sans le baptême, nous ne sommes pas initiés à cette vie nouvelle. Vous voyez ? D'où l'intérêt, ce que vous disiez ce matin, tout à l'heure. Vous voyez, au fond, cet élément religieux apparaît comme un élément liturgique, apparaît comme un élément sacramentel. Vous voyez ? Parce qu'il nous fait comprendre, en quelque sorte, que notre vie humaine, elle ne peut être unifiée, vous voyez, que par cette religion des sacrements, avec l'Eucharistie au centre. Vous voyez ? Bon. Alors, le synode sur la famille montre que dans cette vue religieuse, vous voyez, la famille est intégrée. Elle a un objet. C'est si marqué que, justement, Dieu se révélera à nous comme un père. Et puis Jésus apparaîtra comme un frère. Et puis l'Esprit-Saint viendra comme le bien-aimé, comme l'époux divin. Donc, en fait, le contenu même de cette révélation, vous voyez, si quelqu'un n'a aucun sens de la famille, si il brise la famille de sa vie, sous prétexte qu'il ne garde que l'aspect social, l'aspect d'une société, mais non pas enraciné dans la famille, non pas au service de la famille, mais il ne peut rien y comprendre, cette religion. Vous voyez, la religion reste tout à fait en dehors de lui. Vous voyez, donc, on voit très bien comment, dans cette religion de Jésus, la famille est un objet de cette révélation. Et que Jésus va nous donner une nouvelle manière de voir la famille. Bon. Mais en même temps, sujet. Parce que de fait, vous voyez, comme cette religion, c'est une religion essentiellement missionnaire. Chacun de nous a la vocation de la faire progresser. Bien, parmi les moyens de transmission de la religion, la famille joue un rôle très très important. Vous voyez, après l'Église, c'est tout de suite la famille qui joue le rôle le plus important. Parce que, en fait, pour former le cœur, la famille a un rôle tout à fait considérable. Vous voyez, avant même, je dirais, la nature qui nous environne. N'est-ce pas ? Parce que cette nature ne trouvera sa signification religieuse que s'il y a une famille qui nous éduque, qui nous forme. Vous voyez ? Bon. D'où, vous voyez, ça, c'est très fort quand la phrase du pape, quand il dit que la famille est objet et sujet de cette révélation. Hein ? Mais alors, ce synode, dès le début, il y a encore un petit mot qui me semble important. Vous voyez, je crois que pour bien comprendre toute la signification de ce synode sur la famille, vous voyez, il importe bien aussi que nous précisions la différence entre évangélisation et catéchèse. Parce que je crois qu'actuellement, au fond, il y a souvent une espèce de confusion. Vous voyez, l'évangélisation, vous voyez, c'est l'annonce du mystère révélé, possible dans toute son intégrité, sans avoir le souci de présenter des preuves rationnelles, hein, bon, mais qu'il soit dit par celui qui le présente, avec cette autorité, on voit que Jésus avait, et que Saint Luc en parle, bon, mais qui vient de ce qui vit ce mystère, hein, qu'il en est un témoin, hein, par sa vie même. Voyez, et qu'en l'écoutant, s'est dit, ben, peut-être je ne suis pas d'accord avec lui, mais en réalité, c'est évident. C'est, au fond, il le vit, sa foi. Au fond, sa foi, c'est tout pour lui. Vous voyez, les réflexions que les gens en France faisaient après le passage du Saint-Père, du Pape. N'est-ce pas ? Vous voyez ? Bon. Parce que dans l'évangélisation, vous voyez, on donne une révélation. Donc quelque chose qui vient directement de Dieu dans son objet. Il a été révélé immédiatement par Dieu. Mais toute révélation suppose la promesse par Dieu, hein, que le Saint-Esprit sera envoyé en même temps, hein, pour qu'il y ait une inspiration qui permette à ceux qui reçoivent cette révélation de communier cette révélation. Vous voyez que quand il s'agit de l'évangélisation, c'est en fait une communion qu'on cherche d'abord. Vous voyez, au fond, on ne cherche pas à instruire les gens par des concepts, en leur donnant des idées nouvelles, en leur donnant un nouveau système. Hein. On ne cherche même pas à leur présenter les choses d'une façon assez séduisante au point de vue de l'esprit, en trouvant de belles comparaisons, au fond de beaux symboles, hein, vous voyez, comme les rétères. Non. Mais on s'efforce de présenter dans la plus grande simplicité les vérités révélées, mais avec cette conviction profonde. Vous voyez, que l'Esprit Saint qui inspire le prédicateur, que l'Esprit Saint travaille aussi dans l'auditoire, n'est-ce pas, et qu'une communion se réalise. Alors c'est dans ce sens-là, vous voyez, que l'évangélisation trouve son couronnement, n'est-ce pas, quand cette prédication est donnée autour de l'Eucharistie. N'est-ce pas, quand tout s'achève avec Jésus présent, mais qui se donne ensuite. Que c'est lui qui donne le sens profond de cette évangélisation. Vous voyez ? Ça, c'est l'évangélisation au sens précis du mot. Vous voyez ? Alors, là, nous voyons combien la famille va avoir de liens avec cette évangélisation, parce que cette formation du cœur, encore une fois, comme je le disais, ce n'est pas l'État qui forme le cœur. Vous voyez ? Au fond, ce n'est pas les universités, ce n'est pas l'école comme école qui peut former le cœur. Il peut donner une instruction pour l'esprit, mais la formation du cœur, elle vient de l'Église et de la famille. Vous voyez, humainement, naturellement, c'est la famille qui doit former le cœur. Vous voyez. Alors, ce rôle donc de la famille dans l'évangélisation est très très important. Je crois que c'est très important, je vous le disais déjà la dernière fois, mais qu'il nous faut que nous profitions du synode, ben, pour que toutes ces réalités de la famille, nous les revivions profondément en nous. Hein? Vous voyez, parce qu'au fond, nous sommes tous terriblement marqués par la mentalité du monde actuel. Hein? Vous voyez, et au fond, et très facilement, nous méconnaissons ce que nous avons reçu de notre famille. Vous voyez, ou comme notre évêque, Mgr Julien, aimait le dire, hein, on ne voit plus les familles que dans les aspects péjoratifs. Hein? Vous voyez, au fond, on ne découvre plus, au fond, que c'est une des réalités humaines où il reste toujours quelque chose encore de très profondément de bon. Vous voyez, bon. Et alors là, je crois que c'est très très important de se rendre compte que c'est en pardonnant qu'on redécouvre les perfections de sa famille. Vous voyez, parce que c'est très frappant, hein, si de fait, beaucoup ont pu quelquefois souffrir de leur famille et que beaucoup de déformations ou d'autres choses peuvent avoir l'origine dans la famille. Mais en fait, hein, c'est sûr que quand quelqu'un, dès le début, s'est pardonné à ses parents, hein, dès le début, ne s'arrête pas, au fond, eh bien, il y a toujours des suppléances du regard de Dieu. Vous voyez ? Et ces suppléances, la plupart du temps, nous ne les avons pas parce que nous n'avons pas pardonné, nous sommes fermés. Hein? Vous voyez? Et ça, dans l'Église de Jésus, c'est extrêmement marqué. Vous voyez? Il est sûr que si on faisait Ce serait très important de le voir qu'un enfant, par exemple, quand il a reçu une éducation chrétienne, quand ses parents lui ont donné une éducation chrétienne, qu'il lui ont appris avant tout qu'il savait pardonner, hein, et que dans l'Église, on se considérait tous comme des pécheurs, et donc qu'au fond, on avait continuellement à se pardonner les uns les autres. Vous voyez ? Eh bien, c'est sûr qu'il y aurait tellement moins, c'est pas, de conflits et de difficultés chez les enfants. Vous voyez ? Mon expérience, qui nécessairement reste très très limitée, mais vous voyez, chez combien d'adultes, j'ai eu la confidence, hein, au fond, ils avaient eu des familles chrétiennes, ils avaient quelquefois des pères ou des mères qui n'étaient pas, qui étaient assez, qui avaient des défauts, hein, et qui ne répondaient pas, si vous voulez, à l'idéal du père et de la mère. Hein. Bon, mais qui disaient tous, oui, mais quand on était habitué à dire la prière le soir, et puis qu'on voyait son père et sa mère à genoux, et puis demander pardon à Dieu, ben, tout naturellement, on leur pardonnait leurs injustices, ou on leur pardonnait ce qu'on ne comprenait pas. Au fond, parce qu'ils nous donnaient avant tout l'exemple du pardon. Ben, et d'autres disaient, ben, au fond, mon père paraissait comme un homme il a une formation juridique, il était assez sévère, assez dur, mais quand on le voyait en prière, il a eu une toute autre attitude, n'est-ce pas ? Et au fond, c'est les souvenirs de mon père priant qui ont fait que, au fond, j'ai pas été en révolte avec lui. Vous voyez, ça, je crois que c'est très, très, très fréquent. Vous voyez ? D'ailleurs, ça me frappe énormément, vous voyez, comment les petits-enfants, n'est-ce pas ? Quand ils sont religieux, mais ils sont indulgents pour leurs parents. Vous voyez, moi j'ai souvent eu des parents, par exemple divorcés ou autres, qui me demandaient de former un petit peu leurs enfants pour la première communion. Parce qu'ils étaient gênés, ils ne savaient pas comment, au fond, donner tout l'ensemble de la doctrine chrétienne. Mais c'était très très frappant de voir comment ces enfants, ben, il était possible de leur faire comprendre tout l'enseignement de l'Église, et puis leur faire comprendre qu'en même temps, ben, ils avaient une reconnaissance immense à leurs parents, tout ce que leurs parents leur avaient donné, n'est-ce pas ? Ils ne pouvaient jamais les juger. Ça paraissait de soi pour un petit croyant. Et c'est vrai, ça va de soi pour un petit croyant. Vous voyez ? Parce que, en fait, ce qu'on a reçu de ses parents est tellement incommensurable par rapport même aux difficultés qu'il a eues. Bon, la vie, bon, dans l'existence, si on croit que le bon Dieu nous aime, et que nous sommes ses amis, donc au fond qu'on se réjouit d'avoir été créé, ben, les premiers collaborateurs à la création, ben, ce sont les parents. Donc il y a une espèce de reconnaissance foncière qu'on trouve chez tous les saints. Ben, rappelez-vous, notre évêque, le père Desmazières, n'est-ce pas ? Le jour de son jubilé d'épiscopat, au fond, comment sa première prière a été à ses parents. N'est-ce pas ? Vous voyez, et Jean 23, une des choses qui a attiré le plus, je crois, la sympathie des gens, c'est quand le premier jour qu'il a parlé comme pape, quand il a expliqué le nom qu'il avait choisi, c'est pas que son père, au fond, est le nom de son père. Bon, et puis en montrant l'affection qu'il avait vis-à-vis de ses parents. Hein, vous voyez, et ça, c'est un fait. C'est pas que ça montre tout ce rôle. Et je crois que le synode, il faut en profiter pour cela. Bon. Alors, maintenant, il faut que nous tâchions un petit peu plus d'approfondir pour nous aider justement à reprendre ces valeurs de la famille. Ce qui est frappant, vous voyez, depuis le début du synode, de voir combien le synode parle en même temps du sacrement de mariage. N'est-ce pas ? Vous voyez ? Et au fond, et si nous prenons les paroles du pape ces derniers temps, vous voyez, le synode de plus en plus rapproche très fort, n'est-ce pas ? Le mariage et le sacerdoce, montrant bien que le sacerdoce est au-dessus du mariage, n'est-ce pas ? Montrant comment dans le sacerdoce, au fond, l'Église romaine a maintenu les liens avec le célibat, donc tout l'aspect religieux qui est très proche de l'aspect du sacerdoce, donc tout l'aspect de l'Église, par où l'Église a tout un rôle, au fond, de famille, n'est-ce pas ? Mais que par le sacrement de mariage, la famille elle-même entre à l'intérieur de cette Église. C'est pas ? Vous voyez ? Et que pour le mariage suppose une vocation. Donc, un appel de Dieu. Donc, en fait, quand on se décide pour se marier, quand on tâche de choisir celui qui doit être le compagnon, il ne faut pas qu'on le fasse comme une œuvre personnelle, comme si c'est nous qui avons à choisir. Va attacher de voir quel est l'appel de Dieu. Parce qu'il y a une véritable vocation. Vocation sera à deux. Alors, ce qui me semble le plus significatif dans le synode, dans les deux discours qu'on avait analysés du pape dans les cours précédents, vous voyez, c'est le fait qu'il présente la paternité et la maternité comme un don. Vous voyez ? Alors, je pense qu'il faut bien prendre cette notion de don. Vous voyez, il ne le présente pas d'abord comme un devoir. C'est vrai que ça implique des devoirs. Il ne le présente pas d'abord comme une responsabilité. C'est vrai que ça implique des responsabilités. Vous voyez, mais le pape va tout de suite au premier aspect. Mais on ne pourra pas remplir cette responsabilité. On ne pourra pas répondre à ses devoirs si on n'a pas conscience d'abord que Dieu donne quelque chose. Il y a un don nouveau. Vous voyez ? Et prenez don, ce n'est pas un talent simplement. Vous voyez ? Donc ce n'est pas un don naturel, c'est un don gratuit. C'est un don qui vient du sacrement de mariage. Hein, ou qui vient de la prière par laquelle on demande au Saint-Esprit ce don. Hein. Donc c'est dans la prière qu'on doit d'abord devenir père et mère, vous voyez. Et j'irai plus loin, vous voyez même. Je crois qu'à notre époque, c'est très important aussi de distinguer les dons, vous voyez, et les charismes. Hein? Les charismes, dans le sens de saint Thomas d'Aquin, et un petit peu au fond, c'est, chez saint Paul, c'est pas toujours pris exactement dans le même sens, mais le charisme dans le sens de saint Thomas d'Aquin, ils sont tous très liés avec la prophétie. Vous voyez, et c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel, au fond, qui sera donné en vue de la communauté, l'ensemble de la communauté. N'est-ce pas? Vous voyez, les dons qui se rapportent aux dons du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus gratuite, mais qui se rattache immédiatement à la grâce sanctifiante. Et alors qui, dans le mariage, se rattache immédiatement au sacrement de mariage. Hein, qui est une institution divine. Mais, donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez ? Parce que, au fond, dans les desseins de Dieu, tous ceux qui ont reçu le mariage, le sacrement de mariage, bon, Dieu est prêt. Ils savent que Dieu veut leur faire ce don de la paternité, de la maternité. Vous voyez ? Bon, mais il faut en même temps qu'ils s'en rendent compte et qu'ils demandent à Dieu que c'est quelque chose de gratuit. Vous voyez, et que ça demande continuellement cette grâce de Dieu, parce que le don, c'est gratuit. Vous voyez, et par le fait que c'est gratuit, du reste, c'est existentiel. Vous voyez, bon, un sacrement, le sacrement de mariage, on ne le reçoit qu'une fois. N'est-ce pas ? Les époux n'ont pas renouvelé leur sacrement de mariage pour chaque fois qu'ils ont une difficulté. N'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui a été donné par Dieu et qui s'inscrit en nous. Et comme le caractère pour le prêtre dans son sacerdoce. Vous voyez ? Mais ça lui donne une aptitude, ça lui donne comme un droit d'amour que le Saint-Esprit lui est promis. Hein ? Le Saint-Esprit lui sera donné. Mais ce don, ça vient du Saint-Esprit. Vous voyez ? Donc ça demande qu'en même temps, il n'est pas simplement le sens de ce que par son mariage ou que par son sacerdoce, il est un serviteur, il est une servante. Bon, mais qu'il ait le sens de rester en intimité avec son Dieu. N'est-ce pas ? Et de demander, au fond, à son Dieu ce don pour pouvoir bien remplir la responsabilité qui lui a été donnée. Vous voyez ? Alors, ça va très très loin, du point de vue du don. Vous voyez ? Et je crois que c'est peut-être ça le plus original. Et au fond, ça se rattache à toute cette mentalité qu'on sent très bien du Saint-Père, vous voyez, qui veut toujours étudier les vertus théologales à la lumière des vertus, la famille à la lumière des vertus théologales, vous voyez, et non pas d'abord du point de vue moral. Vous voyez, c'est très très important cela, vous voyez, parce qu'à la fois, vous voyez, c'est peut-être, enfin, je ne sais pas, je ne veux pas préjuger, Mais c'est peut-être ce qui va permettre au Saint-Esprit de faire découvrir, voyez, des sortes de possibilités, voyez, que même pour les gens, par exemple, en situation irrégulière, bon, l'Église peut trouver comme des moyens. Voyez, parce que, en fait, voyez, on peut toujours demander le Saint-Esprit. Hein? Voyez, donc, prenez par exemple des divorcés mariés, hein? Voyez, mais qui profondément, hein, sont découverts en quelque sorte de leur erreur après, hein, au fond, et qui profondément, au fond, par le désir, voudraient vivre, que de fait, ne voient pas comment ils pourraient changer leur situation, mais que par le désir, ils voudraient vivre très fort du sacrement de mariage. Vous voyez ? Et que, en fait, ils supplient le bon Dieu. Le Saint-Esprit, moi j'ai vu des cas où le Saint-Esprit, oui, au fond, apportait des grâces. Vous voyez, peut-être que l'Église, ça c'est autre chose. Est-ce que l'Église jugera que dans, extérieurement, ça, c'est la question de la prudence de l'Église. Ben, nous ne savons pas. Mais vous voyez, l'Église a toujours maintenu et rappelle sans cesse, vous voyez, qu'elle n'a jamais voulu excommunier les gens qui n'étaient pas les divorcés mariés. C'est absolument faux. Hein? Et vous voyez l'importance dans laquelle l'Église le met. Vous voyez, parce que, au fond, une excommunication, vous voyez, ça suppose en quelque sorte qu'on suppose, qu'on considère que la personne se trouve dans un état de péché. Vous voyez, quand on a la certitude que quelqu'un n'est pas en état de péché, l'Église ne l'excommunie pas. Vous voyez, on voit l'attitude très forte du pape, par exemple, par rapport à... Le pape n'a jamais voulu excommunier Monseigneur Lefebvre, vous voyez. Bon, parce que, au fond, dans beaucoup d'écrits du pape, on a l'impression que le pape a une certaine conviction que ses intentions, après tout, elles doivent être... Et, au fond, il respecte ses intentions. Et, après tout, il semble que ses intentions, elles sont peut-être bonnes. Ben, il peut se tromper terriblement. Mais, alors, vous voyez, c'est très, très important cette notion du don. Parce que vous voyez, dès que vous vous placez à ce point de vue du don, hein, et vous vous placez donc au point de vue des vertus théologales, vous voyez, c'est essentiellement le point de vue de l'espérance. L'espérance avant, parce que la foi chrétienne, c'est une foi d'espérance. Hein, vous voyez, parce que c'est la foi en un sauveur. Et un sauveur qui est donné. On ne l'attend plus, le sauveur. Il est là, il est présent. Vous voyez, donc on s'appuie sur ce sauveur. Vous voyez. Bon, alors par le fait même qu'on a un sauveur, même si nous sommes très faibles, même si nous disons, mais en moi, il y a toutes sortes d'infidélités, bon, il y a, au fond, peut-être que le fond de ma volonté reste fidèle, mais ma sensibilité, elle n'est pas fidèle du tout, elle est tout le temps en révolte. Au fond, mon imagination, mais elle est tout le temps en tiraillement, au fond, mais je tâche de garder cette espérance dans mon sauveur. Ben, tu as toujours de dire, ben, Jésus, je crois que c'est toi mon sauveur. Ben, et comment est-ce que je t'ai le montrer? Simplement en disant, ben, je sais que le salut ne viendra que de toi. Je t'en supplie, j'ai une viendra que de toi. Tu vois, et la preuve, c'est que je reviens sans cesse vers toi, parce qu'il y a toi qui peux me sauver. Je suis le seul qui peut me sauver. Vous voyez, cette simple attitude, ben, elle maintient notre espérance. Vous voyez? Alors, c'est très important, parce que, vous voyez, c'est les vertus théologales qui, par l'espérance, vous voyez, permettent qu'un idéal, que de fait, nous ne réalisons pas. Bon, mais que déjà, il est commencé par l'espérance. Vous voyez ? Tandis que toujours le danger pour nous, vous voyez, c'est de substituer à l'espérance nos désirs. Vous voyez, donc avec un idéal. Vous voyez ? Au fond, vous comprenez, par exemple, quelqu'un qui prend comme modèle, je ne sais pas, au fond, Gandhi, pas pour prendre un des plus beaux, là. Ben, d'autres peuvent prendre Napoléon, ou d'autres peuvent prendre, je ne sais pas, quel grand homme quelconque. Vous voyez ? Bon, si au bout d'un certain temps, ils découvrent qu'au fond, ils n'ont aucune valeur guerrière, oui, qu'ils aiment bien Napoléon, mais enfin, qu'ils n'ont aucun courage, au fond, en face de là. Ben, ils sont obligés de dire, ben non, je ne peux pas considérer qu'au fond, je me mens à moi-même. Vous voyez, même par rapport à Gandhi, quelqu'un qui n'est pas capable de la persévérance, de la patience, de l'attitude qu'il a dit, ben, il dit, ben, je ne peux pas être un vrai disciple de Gandhi. Hein? Mais comme Jésus a voulu être le sauveur des pécheurs, Vous voyez, nous pouvons nous sentir que nous ne sommes pas du tout ses disciples par rapport à une quantité de choses. Mais qu'en fait, tout le même, disons, ben, c'est de plus en plus, j'ai la conviction, il n'y a que toi qui peux me sauver. Ben, je m'accroche à toi. Et au fond, dans la volonté, je te le demande. Eh bien, on peut se considérer disciple de Jésus. Vous voyez? Parce qu'au fond, ben, qu'est-ce que Jésus nous demande? C'est humblement, nous considérer comme des pécheurs, de venir vers lui. Vous voyez? Comme sauveur. Ben, alors, vous voyez combien c'est important. On voit la perspective dans laquelle le pape se place de plus en plus pour la famille. Ça laisse des ouvertures, bon, des pauvres familles désunies. Ben oui, peut-être qu'au point de vue des hommes, au point de vue de la psychologie, elles seront d'aucune manière des... Mais si au fond du cœur, voyez, de l'un ou l'autre, Jésus reste le sauveur. Voyez, c'est les phrases si belles qu'il y a dans saint Paul. Voyez, en saint Paul, en particulier à propos de la femme, dit qu'il faut qu'elle reste fidèle pour être le salut de son mari. Ben, voyez, extrêmement loin. Ben, c'est très très beau comme doctrine. Voyez, ça montre que, par exemple, ben, quelqu'un, au fond, dans le divorce, comme ailleurs, ou quand un mariage ne marche pas, vous voyez, bon, mais la femme qui, sans, par son sacrement de mariage, bon, sacrement de mariage, il n'a pas promis que ça irait bien sur la terre, mais il a promis qu'elle tiendrait. Hein, et au fond, il lui a promis qu'en quelque sorte, à travers, dans ses souffrances même, dans ses difficultés même, bon, elle pourrait être le salut de son mari, bon, elle le verra de l'autre côté. Mais parce qu'au fond, dans ses souffrances, au fond de la séparation, même ou peut-être même du divorce, vous voyez, dans sa souffrance, bon, elle continue à prier pour lui. Vous voyez, elle croit toujours à son mariage. Vous comprenez? Parce qu'elle sait que Jésus en est le garant. Et sacrement, elle le garde d'abord par rapport à Jésus. Vous voyez, je crois que c'est capital tout ce point de vue, dès qu'on se place au plan des sacrements. Vous voyez, parce qu'à la fois, ça nous maintient comme des pécheurs. Donc, ça évite toute cette espèce de pharisaïsme, n'est-ce pas? On croit qu'on est vraiment parfait, qu'on a, au fond, on ne se présente pas du tout comme des modèles, vous voyez? Mais en même temps, alors, c'est très frappant, je vous l'ai déjà dit, je vous le rappelle d'un mot seulement, n'est-ce pas? C'est que, vous voyez, dans l'Église de Jésus, il n'y a pas de sacrement du travail ni de la politique, n'est-ce pas? Mais j'ajoute aussi, vous n'avez pas dit, il n'y a pas non plus de sacrement de la culture humaine. Vous voyez, quand nous allons à l'école, même si c'est l'école des sœurs, hein, il n'y a pas un sacrement qui commence avant d'apprendre à lire. Hein, vous voyez, donc, au fond, vous voyez, l'école de foi, l'école d'espérance, c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe tout de suite. Vous voyez, mais dès qu'il s'agit d'une culture humaine, on les hommes. Vous voyez, et le sacrement de mariage, vous voyez, c'est celui qui nous donne cette certitude que la famille, mais la petite famille, que dès le début, vous voyez, le père et la mère vont recevoir des grâces spéciales de Dieu, voire des grâces spéciales, vous voyez, pour l'œuvre qu'ils ont à remplir. Non? Alors, comme chaque fois dans les sacrements, vous voyez, c'est aussi très important à voir. Vous savez quel sacrement? Le baptême de désir. Mais c'est très important aussi que, par exemple, des familles, vous voyez, qui sont... Je reprends l'exemple, pour les divorcés mariés, par exemple, ou dans d'autres cas. Vous voyez, s'ils ont l'humilité, vous voyez, de reconnaître que la situation n'est pas normale, qu'en même temps, ils se raccrochent très très fort à l'Église de Jésus. Vous voyez, et ne craignent pas par là de prendre comme modèle, vous voyez, le mariage authentique. Vous voyez, bien, le bon Dieu pourra leur faire des grâces, parce que le corps mystique, ça ne fait qu'un. Vous voyez, on vit tous dans le corps mystique. Vous voyez, c'est comme les pécheurs, ça m'a toujours beaucoup frappé. Vous voyez, on a quelquefois de très gros pécheurs, hein, qui ont des mauvaises habitudes, qui boivent, qui sont enfin des gens très très tombés au plan humain. Mais qu'on est frappé au fond du culte qu'ils gardent pour les saints. Vous voyez? Et au fond, comme l'Église, dans sa sainteté, il l'aime. Vous voyez? Au lieu d'être jaloux des saints, en quelque sorte, au lieu d'être en opposition avec les saints, même quand ces saints vivent encore sur la terre, vous voyez, et donc ont des défauts, même là, ben, qu'ils ont une espèce de... Vous voyez, ça m'a frappé pendant le service militaire, par exemple, de voir des soldats très, très pauvres à tout point de vue, des pécheurs de toute manière, vous voyez, mais qui gardaient un sens. Par exemple, il y avait une bonne sœur, que vous avez connue à l'hôpital, là, c'était une sainte pour eux. Et au fond, ils en gardaient là, précieusement, elle leur avait donné une médaille de la Sainte Vierge, mais ils gardaient précieusement, vous voyez. Je dis plus des bonnes sœurs parce que très souvent, elles avaient plus rencontré des bonnes sœurs que des saints prêtres. Mais enfin, tout de même aussi, quelquefois. mais, vous voyez, là, c'est très, très important. Parce que il y a une... Les enfants de lumière, vous voyez, d'aimer, c'est comme pour le prêtre, par exemple, vous voyez, d'aimer, admirer la grandeur d'une famille chrétienne. Vous voyez, par exemple, ce soir, vous voyez, moi, je pense que, puisque ce sont nos pères de famille d'ici qui ont voulu organiser la veillée, hein, et j'ai tenu un petit peu que ce soit entre eux qui la fassent. Hein, oui, bien sûr, ils m'ont demandé de dire un petit mot d'introduction, n'est-ce pas? Ce sera surtout en face du Saint-Sacrement, au fond, qui présidera cette veillée. Vous voyez? Eh bien, je crois que ça peut être un petit peu un événement, dans le sens profond du mot, pour notre communauté. Vous voyez? Ce auquel le bon Dieu demande les fonctions du mariage, en élevant leurs enfants, en s'occupant de leurs enfants. Bon, ben que ceux-là ont un don de Dieu, hein, bon, et que nous allons reconnaître ce don de Dieu. Vous voyez, je vous disais hier, mais je crois très profondément, voyez, de même ben, qu'au fond le père Stéphane le répète souvent, hein, et qu'au fond, que quand on aime fêter en quelque sorte les prêtres de la communauté, mais de fêter, de reconnaître la fonction, n'est-ce pas, des pères de famille dans la communauté. Ils ont une grâce, ils ont un don de Dieu. Et un don de Dieu qui a été donné pour leur famille, mais aussi pour nous. Vous voyez, parce que comme l'Église le montre très bien, s'ils sont vraiment pères et mères de famille selon le don de Dieu, leur foyer sera tout ouvert, n'est-ce pas? Et donc leur foyer sera comme une grâce pour nous tous. Vous voyez? Alors là, il y a quelque chose de très grand, de le reconnaître, et d'aimer les soutenir, voyez, et d'aimer donc prier avec eux, d'aimer communier avec eux, ça c'est tout à fait le mystère de l'Église, voyez. Alors que humainement notre monde actuel nous pousse tout le temps à des séparations, hein, voyez, on voit ces gens par exemple les célibataires, oh, les gens mariés, enfin comme si en fait au lieu de humblement, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'importé, hein. La même opposition qu'on voit, quelquefois c'est beaucoup moins fréquent, c'est en fait les prêtres et la Légion en général. Mais comme si en un sens, et vous voyez, il y a là quelque chose qui va très très loin, il me semble. Et la grâce qu'il faut demander à propos du synode. Alors, ce sera assez frappant, vous voyez, si les questions essentielles du synode vont tourner autour du mariage, n'est-ce pas? Vous voyez, des deux aspects du mariage, l'éducation des enfants, et puis la paternité libre, consciente. Vous voyez, donc toutes les questions de régulation des naissances, et fait toutes ces questions-là. Bon. Sûrement, on voit d'après l'ensemble, il y aura aussi toute une série de questions, sera étudiée des rapports entre la société et la famille. Hein? Vous voyez, et cela se posera aussi bien pour l'Occident que pour l'Afrique. Hein? Vous voyez? Alors c'est très frappant de voir que dans la conception de l'Église catholique, vous voyez, une des raisons pour laquelle les papes ont toujours défendu la propriété privée, hein? Vous voyez? Bon. C'est d'abord pour que la personne elle-même puisse être libre. voyez. Mais très souvent, ça joue très fort aussi au point de vue de la famille, pour que la famille soit libre. Vous voyez, pourquoi est-ce que l'Église a toujours, au fond, insisté, vous voyez, pour que la famille reste libre par rapport à l'entreprise, par rapport aussi à la société. Vous voyez, on voit très bien des conceptions différentes. Hein? Vous voyez à Tourotte, par exemple, Saint-Gobain. Hein? Bon, ou certainement sous l'aspect d'un point de vue chrétien, hein? Vous voyez, on avait voulu, on a établi il y a une vingtaine d'années, hein, des petites maisons ouvrières pour les ouvriers, hein, mais qui soient faites de façon à sauvegarder avant tout la famille. Hein. Donc, en leur maintenant leur petit jardin, non pas des étages, mais la petite maison ouvrière qui permette à la famille de vivre. Vous voyez. Et puis, ça a été même plus loin, hein, que l'entreprise, dans un but social, a pensé qu'il fallait tâcher de demander à ses ouvriers bon, un loyer pour un certain temps, mais de manière qu'au bout de 20 ans, par exemple, ils deviennent propriétaires de leur maison. Hein? Bon. Et puis que quand on leur disait, oui, mais alors, au fond, ils vont quitter votre établissement, et au fond, si vous avez construit, c'est vous. Bon. Ils ont répondu, ben non, nous faisons confiance. Nous savons que si les pères sont très heureux dans l'usine, ben, les ouvriers viendront aussi dans l'usine. Leurs fils viendront aussi. Hein? Mais ils préféreront. Vous voyez, c'est très important, hein, qu'un ouvrier se sente libre par rapport à son entreprise. Hein? Vous voyez, et qu'il ne se sente pas comme tenu, comme lié, parce qu'au fond, en fait, c'est l'entreprise qui les loge. Hein? Vous voyez, pour que la famille puisse se développer. Voilà des aspects. Vous voyez, et la propriété privée, l'Église a toujours défendu. C'est venu d'abord de ce point de vue-là. Hein? Alors, c'est très important de voir que dans le développement du monde, la société, comme société, vous voyez, est née hein, souvent pour la défense de la petite famille. Vous voyez, parce que dans les tribus, hein, dans un régime un petit peu où c'est la tribu qui domine, vous voyez, ça risque d'être la grande famille, hein, vous voyez, qui étouffe la petite famille. Hein, vous voyez. Et on voit très bien que dès le début, la société, voyez, en tant que défendant la justice, bon, est venue tout de suite dans les pays occidentaux, dans les pays chrétiens, pas, pour défendre la petite famille par rapport à la grande famille. Vous voyez, pour défendre, par exemple, un tout petit jeune ménage, n'est-ce pas, au fond, qui vient de se marier, ben, au fond, qu'ils ont 20 ans, bon, ils ont un grand-père qui a 70 ans, qui est considéré comme un patriarche, n'est-ce pas, au fond, qui va en tout dominer, n'est-ce pas, qui leur donne ses règles, qui se sentent complètement étouffés, n'est-ce pas, au fond, en face, vous voyez. Bon, si en fait, leur maison, tout dépend du père, du grand-père, ben, comment est-ce qu'ils vont pouvoir devenir un vrai foyer? Bon, comment est-ce que, si c'est la femme, bon, au point elle va pouvoir être libre de choisir le compagnon, ben, que le Saint-Esprit lui inspire, et non pas d'être obligée de prendre le compagnon, enfin, que la grande famille a décidé, au fond, peut-être pas de façon juridique, mais au moins morale, n'est-ce pas, en prenant les gens qui sont reçus par la famille, qui viennent habituellement dans les réunions de famille, ainsi de suite. Vous voyez, alors on voit très bien l'Église, dès le début, la société pour se défendre. Là. Et on retrouve la même chose, parce que c'est très curieux. Si vous parlez aux Africains, vous voyez, où la tribu joue encore beaucoup, hein, et où la religion, et surtout la religion animiste, hein, ou si vous parlez aux Gitans encore, vous voyez, vous apercevez que l'enfant, ben, l'éducation de l'enfant est confiée à la grande famille et pas à la petite famille. Hein? Vous voyez, qu'au fond, l'enfant est comme la propriété de la grande famille. Chez les Gitans, par exemple, c'est très très marqué. Vous voyez, ils sont très très sévères. Hein? Pour la question, par exemple, de l'adultère, où les fautes ils maintiennent très fort, il y a une morale très sévère, mais d'autre part, l'enfant C'est la propriété. La propriété, c'est la tribu qui doit le former. Vous voyez ? Alors on voit très bien que le catholicisme maintient bien un rôle aux grands-parents. Il y a Sainte-Anne. Sainte-Anne garde son rôle. Vous voyez ? Et les grands-parents restent des témoins. Vous voyez ? Mais l'Église catholique maintient très fort qu'il y a une grâce toute particulière. Vous voyez ? Pour les époux qui ont engendré leur enfant, pour lui donner sa première éducation. Vous voyez, d'où le mariage chrétien met très fort en lumière. Vous voyez, cette première grâce de ce premier tout petit couple. Ça, c'est quelque chose de tout à fait spécifique, au fond, à l'Église catholique. Vous voyez, bon, dans l'Église catholique, vous voyez, un prêtre ne pourra pas baptiser un enfant. Normalement, s'il n'y a que la grand-mère qui le demande, vous voyez, ou s'il y a une tante qui le demande, il faut que les parents consentent. Vous voyez. Alors, c'est là que nous voyons comment la famille chrétienne est une réalité très très particulière. Vous voyez, et qui, au fond, alors, vous voyez très bien l'attitude du Saint-Père à Saint-Denis, par exemple. Quand il insiste sur le travail qui doit être donné aux ouvriers, quand il voit tout le chômage, tout ça, mais spécialement à la lumière de la famille. Vous voyez ? Comme en montrant qu'en fait, il y a une sorte de défense de la famille, au fond, il faudrait comme une priorité pour ceux qui ont des enfants, pour les pères de famille par rapport aux autres, pour pouvoir élever leur famille. Vous voyez qu'il y a toute une conception. L'État doit être au service de la famille et non pas la famille au service de l'État. Oui. Alors là, c'est très très frappant parce que, vous voyez, dans les philosophies, les philosophes n'ont jamais pu reconnaître ce rôle de la famille, mais comme organique, comme ayant ses droits. Vous voyez, les philosophes comme Aristote, qui sont réalistes, diront de fait, il faut laisser la place à la famille. Vous voyez, mais on peut dire que la plupart des philosophes, comme philosophes, uniquement comme philosophes, vous voyez, mettent la société au-dessus de la famille. C'est la société qui donne la finalité à la famille. Vous voyez, dans le point de vue chrétien, ce n'est pas vrai. Alors ici, il me semble que c'est très important de voir aussi, méditer un petit peu ensemble, vous voyez, sur la famille telle qu'elle est conçue dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Vous voyez, c'est très frappant de voir que dans tout l'Ancien Testament, vous voyez, Abraham est le père des croyants. Vous voyez, et quand on regarde les patriarches, c'est très frappant de voir combien Dieu s'occupe d'eux, et combien il y a d'interventions divines pour les naissances, pour les mariages, on peut regarder Tobie, pour les... Vous voyez, dans l'organisation, au fond, des patriarches. Vous voyez ? Mais ces interventions restent au plan prophétique. Vous voyez ? Donc, en fait, Abraham a été un père d'une façon absolument unique. Vous voyez ? Mais les descendants de Joseph, vous voyez, toute première génération des patriarches sont tous des... Au fond, il y a un rôle prophétique qui joue dans leur famille même. Vous voyez ? Mais après, les descendants de Joseph, les descendants des tribus, on ne retrouvait pas la même chose. Vous voyez ? Certes, il y avait la circoncision, qui était quelque chose de tout à fait particulier, et au fond, c'était les parents qui présentaient pour la circoncision. C'était l'annonce du sacre du mariage, vous voyez ? Bon, et du baptême. Baptême plutôt. Mais vous voyez, il n'y aura que dans la religion de Jésus, vous voyez, qu'il va y avoir une institution divine, comme est le sacrement de mariage, vous voyez, qui va donner l'assurance, la promesse, vous voyez, que le Saint-Esprit demeure dans ce foyer. Et donc que ce foyer est une église domestique, pour reprendre l'expression du pape. Vous voyez. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'Ancien Testament. Vous voyez ? Et alors qu'il montre tout de suite ce rôle de la Sainte Famille. Vous voyez ? Parce que la Sainte Famille, c'est le début de l'Église. Vous voyez ? Et nous faisons toujours partie de la Sainte Famille. Vous comprenez? Au fond, vous voyez, quand la Sainte Vierge se rappelait d'Abraham, n'est-ce pas? Elle se disait fille d'Abraham par sa foi. Vous voyez? Mais ce n'était pas par le sang. Vous voyez? Elle faisait partie du peuple élu. Mais ce peuple élu n'a trouvé sa finalité dernière qu'avec le Christ, qu'avec Jésus. Il annonçait Jésus. Vous voyez? Et au plan temporel, bon, c'est avec la loi mosaïque, au fond, qu'il se trouvait sa constitution. Il ne suivait pas des patriarches. Voyez, tandis que depuis que Jésus est venu fonder son Église, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la famille est une véritable Église domestique? Bon, c'est que cette famille, elle reste toujours comme si les gens savent progresser avec l'amour du bon Dieu, elle peut rester comme un lieu privilégié pour le développement du cœur. Vous voyez? Et au fond, la fraternité après, qui est entre les frères et les sœurs, ça pourra rester comme un soutien, au fond, pour la religion de Jésus. Vous voyez? Et au fond, d'où elle a continué à jouer tout un rôle, qui est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'Église de notre Seigneur. Et si bien que vous voyez, par le fait, si nous voulons bien comprendre le mariage et la famille chrétienne, il ne faut pas la regarder à la lumière, vous voyez, du Dieu créateur, simplement, n'est-ce pas ? Il faut la voir à la lumière de la Sainte Trinité, vous voyez, comme tous les sacrements. C'est tout de suite, ça montre la finalité toute particulière de la famille, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Et c'est pour ça que c'est le génitrix qui est le vrai père. Hein? Et ce n'est pas le père de famille dans le sens de la famille romaine, hein? où au fond le familier avait la même place en quelque sorte que l'enfant né du père. Oui. Alors nous allons tâcher ce soir, vous voyez, de vivre un petit peu, vous voyez, comme une grâce et comme une étape au fond en quelque sorte dans la vie de l'âge. Vous voyez, comme cette reconnaissance, c'est pas un petit peu de fait dans la liturgie, dans la vie, vous voyez, de ce que les pères et mères de famille peuvent apporter. Vous voyez ?